L'information en démocratie.
Prenez le temps de vous interroger sur la construction de l'information.
Une émission avec la Ligue de l'enseignement.
Et bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Montauvert, je suis en compagnie de Cléo Arzoul, étudiante à l'Institut Européen de Journalisme à Rennes, bonjour.
Bonjour.
Également avec nous Camille Volon, étudiante à l'École supérieure de journalisme de Montpellier, bonjour. Et Carla Cosquet qui nous rejoindra tout à l'heure dans quelques instants. On va prendre une heure pour explorer ce grand chantier de la démocratie et de l'information avec nous Divina Afro-Megs, experte des médias et professeure en infocom. Élodie Vial, journaliste et défenseuse de la liberté d'expression. Il y aura aussi également Olivier Magnin et Sébastien Trouvé, artisans d'une éducation populaire qui éveille les esprits avec les veilleurs de l'info et le carnaval mental. On retrouvera aussi en fin d'émission Patrick Chauvel, grand reporter, photographe, écrivain, qui depuis 50 ans met des images sur les conflits du monde. Alors ensemble, on va parler de vérité, de doute, de manipulation, mais aussi de confiance, de résistance et d'espoir. Alors, parce que informer, c'est essentiel, et bien s'informer, ça s'apprend. Bienvenue dans cette émission spéciale sur votre radio préférée consacrée à l'information et à celles et ceux qui la défendent.
L'information en démocratie.
Prenez le temps de vous interroger sur la construction de l'information.
Une émission avec la Ligue de l'enseignement.
Aujourd'hui, l'information est partout, tout le temps, dans vos poches, sur vos écrans, sur votre feed, dans votre casque. Mais qui la produit, qui la finance et surtout, en qui peut-on encore avoir confiance? Modèle économique en crise, journalistes sous pression, fausses informations en pagaille, l'écosystème médiatique évolue à grande vitesse, pas toujours pour le meilleur. Alors, pour en parler, deux invités de haut vol, si je puis dire, c'est Divina Afro-Megs, experte des médias et professeure en infocom. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons également Élodie Vial, journaliste et défenseuse de la liberté d'expression également. Bonjour.
Bonjour.
Une heure pour mieux comprendre l'information, on aura différents invités, vous l'avez bien compris. Et pourquoi ça nous concerne toutes et tous? Alors Divina, comment vous évaluez en 2025 l'état de santé des médias en France? Grosse question, hein. Pour commencer.
C'est la question piège. Il y a plusieurs journalismes. Il y a le journalisme de la presse écrite, de la télévision, et puis un nouveau journalisme qui arrive par le biais d'influenceurs spécialisés dans l'information et l'actualité. La presse écrite est sans doute celle qui s'en sort le moins bien. Il y a du rebond du côté de la télévision, hein. Vous n'avez pas raté évidemment l'actualité de Netflix et TF1 qui... se sont maqués, si je puis dire, avec plein de guillemets, mais qui montrent bien une capacité de rebond de la télévision. Et puis les influenceurs, dont certains sont des journalistes à la base, hein, mais d'autres qui sont vraiment issus du numérique et qui, eux, ont beaucoup de suivi au niveau des jeunes, hein, des jeunes jusqu'à maintenant 18-35 ans. Hein, donc, ces jeunes mûrissent. Et donc, ça se porte un peu mieux avec un modèle d'affaires des plateformes qui, de plus en plus, va aller vers les producteurs de contenu et lâcher les journalistes et les gens de l'actualité. C'est le modèle Meta, hein. Un Meta qui ne soutient plus les fact-checkers, qui ne soutient plus les journalistes et ne fait plus de fil d'actualité à partir de la presse écrite, hein. Mais qui va faire de l'argent avec des jeunes influenceurs dont la parole n'est pas nécessairement celle de l'actualité ou des faits, hein, qui est plutôt sur le commentaire et l'opinion, et donc avec toutes les difficultés de ramener en avant la nécessité d'une information de qualité et de faits avérés.
L'actualité au niveau de l'écran, le grand écran, c'est la TNT, c'est aussi l'arrivée en septembre de Ouest France, mais il y a aussi d'autres opérateurs. Votre regard dessus, Élodie?
Effectivement, on peut se féliciter du fait qu'il y ait de nouvelles chaînes de télévision comme celle de Ouest France qui arrive aujourd'hui sur la TNT et ainsi que d'autres opérateurs. On peut aussi quand même se poser des questions sur certaines chaînes, sur les conditions parfois d'attribution. Et puis sur une certaine dérive quand même de la qualité du débat public qu'on a pu voir sur de nombreuses chaînes qui posent aussi des questions sur les conditions du discours démocratique, en fait. Garantir effectivement que respecter la liberté d'expression, ben c'est aussi c'est pas forcément laisser cours au discours haineux, c'est pas forcément laisser cours à la désinformation. Et je pense que c'est très important, quand on parle de liberté d'expression, de penser que la liberté d'expression, c'est aussi protéger les personnes qui s'expriment, et notamment, oui, les influenceurs et les journalistes.
Cléo ?
Et mais comment faire, du coup, pour lutter contre cette désinformation, pour éviter que les... Enfin, pas les influenceurs, mais que, oui, qu'il y ait beaucoup de fake news, il y a aussi beaucoup de faux comptes. Il y a aussi beaucoup de faux comptes qui circulent sur les réseaux sociaux, des faux comptes d'information. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de, soi-disant, l'Iran qui allait bombarder la France. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça... C'était un petit peu... tout le monde s'est agité. Donc, comment on pourrait faire pour lutter contre ça ?
Alors, c'est vrai que c'est un nouveau phénomène, hein, le phénomène des systèmes d'IA qui alimentent des chatbots en continu et qui fabriquent de nouveaux médias, hein, qu'on appelle les médias synthétiques, hein, c'est-à-dire des médias qui produisent des images et des textes qui n'ont pas nécessairement de lien avec la réalité. Donc, des images dont on ne peut pas retrouver la source, hein, si on utilise des fact-checkers. On sait que c'est une image fausse d'ailleurs, parce que justement, il n'y a plus de source, on ne retrouve pas l'original, puisque c'est l'IA qui l'a créé. Et c'est vrai que il y a une opportunité, d'une certaine manière, avec l'IA, les systèmes d'IA, pour les médias, parce que ça peut libérer du temps de journalisme pour faire du reporting sur des choses comme, je sais pas, les résultats sportifs ou même les résultats des élections localement. Et dans le bon sens, c'est comme ça que c'est utilisé, hein. Mais beaucoup de ces chatbots, ce qu'ils veulent, c'est simplement attirer de la publicité, et attirer d'autres chatbots. Et ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est un dialogue entre chatbots qui risque de tuer même la liberté d'expression en ligne telle qu'on la connaît, parce que on n'est pas entre humains, hein. On est juste entre systèmes qui essaient de récupérer la manne publicitaire. Alors, et c'est un risque supplémentaire pour le journalisme de qualité.
Alors, ce serait quoi le pare-feu justement pour lutter contre ces chatbots ? Ça me paraît compliqué, tout ça.
Ben, le pare-feu, c'est déjà peut-être de demander aux plateformes de faire leur propre nettoyage, hein, parce que elles arguent du fait que les robots, les chatbots, les aident à nettoyer les faux comptes, etc., mais elles s'en servent pas nécessairement dans le sens qu'on voudrait, nous, hein, au niveau de toutes les expressions qui sortent de là, hein. Donc, mettre les plateformes devant leurs responsabilités.
Donc, réguler.
Certainement. Et donc, une demande de régulation, et la régulation n'est pas liberticide. C'est ça qu'il faut quand même arriver à faire passer comme message, parce que c'est le message contraire qu'utilisent les plateformes, hein, c'est que c'est elles qui sont liberticides quand elles laissent sortir tous ces miasmes, toutes ces ce qu'on appelle le slop, hein, c'est-à-dire vraiment juste retenir l'attention parce que c'est surprenant, c'est bizarre. Enfin, je sais pas si vous avez vu en ligne, hein, toutes les vidéos sur les Jésus en crevette, hein. C'est des gros degrés d'information sous zéro, c'est nul, hein. Mais ça attire l'attention, ça attire des budgets, etc. Donc là, clairement, il y a ça. Et puis bon, évidemment, je ne vais pas vous surprendre en disant il faut éduquer. Il faut éduquer un maximum de jeunes pour qu'ils signalent, pour qu'ils aillent ailleurs, pour qu'ils eux-mêmes bloquent ces systèmes.
Restons sur l'économie. Elodie, quels sont les modèles économiques qui tiennent encore debout, s'il en existe encore ?
Effectivement, aujourd'hui, pour les médias, c'est le modèle économique est un peu compliqué, on va dire. Il y a beaucoup de médias qui vivent grâce à la publicité, grâce aux abonnements, et j'en profite pour dire que c'est très important, justement, à l'heure où on est d'accord des fois pour payer un abonnement Netflix, Spotify, mais aussi de manière engagée, de payer un abonnement pour un média indépendant, parce que l'information, elle a un coût. Et quand on fait du journalisme, en fait, on suit une méthodologie et des valeurs et une déontologie. Et chercher l'information, quand elle n'est pas produite de manière artificielle, effectivement, ça a un coût. Il y a aussi des modèles intéressants à explorer pour les médias, par exemple le modèle coopératif, en fait. Et on se pose de plus en plus la question de voir pour les médias des modèles un peu comme des associations, en fait. Comme des coopératives, plutôt que des modèles économiques privés, parce qu'en France, on a quand même des médias qui sont détenus par des milliardaires, et en fait, ça pose quand même un problème pour des questions d'indépendance de l'information.
D'ailleurs, le Monde diplomatique avait édité une carte précise avec une arborescence très fournie sur quel média appartient à qui, etc. Et c'est vraiment, on voit que c'est tentaculaire, mais que ça reste aux mains de quelques groupes.
Vous parliez tout à l'heure de milliardaires qui rachetaient souvent des médias. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le média Serpia qui a été racheté par le milliardaire Pierre-Édouard Serrin. Et on a aussi entendu parler de certaines écoles de journalisme, comme l'École supérieure de journalisme de Paris, rachetée par Bolloré, Bernard Arnault. Et c'est un risque pour la démocratie, un risque de censure peut-être pour plus tard.
En fait, le truc, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et ils font pas ça pour gagner de l'argent. En fait, ils font ça parce qu'ils savent que le rachat, mettre un pied dans ces écoles de journalisme, en fait, c'est progressivement, c'est tentaculaire, c'est maîtriser tout un écosystème. Les médias, donc on construit une influence via les réseaux sociaux, via des émissions de radio, des chaînes de télé, des maisons d'édition, maintenant des écoles de journalisme, pour petit à petit construire tout un arc narratif et pouvoir justement avoir ce contrôle des narratifs. Ça permet aussi d'avoir accès à des investisseurs, des politiques, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces oligarques, parce que les oligarques, c'est pas juste en Russie, il y en a aussi en France. C'est juste que, comme ils ont pas la même nationalité, on les appelle différemment. Mais ces oligarques français, en fait, leur objectif, c'est bien d'avoir une influence et, in fine, de maîtriser les narratifs. Or, quand on maîtrise les narratifs, ça a un impact direct sur la démocratie.
Et donc, pensez-vous qu'il y a une autocensure, qui s'installe peut-être au sein des rédactions à cause de tout ça?
Alors,
autocensure.
Moi, je sombrerai pas, j'irai pas aussi vite en termes de. C'est toujours évidemment quand vous avez un média qui est détenu par telle personne, d'aller lancer une enquête sur telle personne. Là, c'est sûr, franchement, il va falloir avoir beaucoup de documentation pour justifier le truc. Mais il y a des pressions. Mais c'est pas aussi automatique que ça. Faut pas croire non plus que c'est toujours, on passe un coup de fil au journaliste, maintenant tu vas faire ça, et le gars, il fait ça. Enfin, vous savez, essayez déjà de monter un projet avec 3 personnes, vous verrez à quel point c'est compliqué de se coordonner. Donc, la coordination comme ça, c'est pas aussi simple. Néanmoins, c'est quand même une menace. C'est une menace sur la démocratie, et on voit bien la technique des oligarques. Si on prend le cas de la Hongrie, c'est exactement comme ça que ça se passe. On rachète des médias, on plante des narratifs, il y a des journalistes qui partent, etc. Et petit à petit, on maîtrise le paysage médiatique d'un pays.
Élodie, vous travaillez à protéger les journalistes. Quels sont aujourd'hui les risques majeurs pour la liberté de la presse que les cas que vous rencontrez?
Les journalistes, aujourd'hui, font face à une série de pressions qui sont à la fois des pressions économiques. Vous avez parlé des modèles économiques des médias qui sont des pressions politiques. Et puis on a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle des procédures bâillons. Donc c'est-à-dire que pour faire taire quelqu'un, on passe son temps à porter plainte contre la personne. Et puis au lieu de bosser, vous êtes là à gérer vos procès. Et puis potentiellement ça peut vous faire couler. Je pense par exemple en ce moment aux médias d'investigation marseillais Mars Actu. Qui fait face à un procès bâillon comme ça, et ça risque de les faire fermer. Donc, il y a un vrai danger. Et puis moi, je travaille beaucoup sur des enjeux de sécurité aussi. Donc, il y a des agressions physiques contre des journalistes. Et on a eu depuis quelques années le besoin de protéger des journalistes, même en manif, avec des gardes du corps. C'est pas du tout superfétatoire. En fait, on l'a fait parce qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Donc ça, c'est aussi un problème pour la démocratie. Je rappelle quand même que Ariane Lévrieux, récemment des journalistes de Disclose, mais aussi des avocats, des chercheurs, etc., faisaient partie d'une liste de gens à abattre qui circulaient sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, ça me glace d'effroi, parce que en tant qu'ancienne de Reporters sans frontières, c'est des choses qu'on observe dans des régimes autoritaires et qu'on voit depuis. On voit ces signaux, mais qui n'ont plus rien de faible, apparaître depuis quelques années en France. Et moi, ce qui me glace d'effroi personnellement, c'est que c'est dans l'indifférence la plus totale. Et c'est ça qui va nous tuer, littéralement. C'est cette indifférence-là et c'est cette incapacité à se mobiliser pour défendre, justement, le journalisme, pas en tant que corporation, mais en tant qu'élément essentiel des processus démocratiques. Et puis, juste pour finir sur ce point des menaces, moi, je travaille plus particulièrement sur les questions de cyberharcèlement. Et vous voyez, quand vous voulez discréditer quelqu'un, quand vous voulez le faire taire, lancer des campagnes sur les réseaux sociaux avec des narratifs, des campagnes de haine, mais aussi de désinformation sur le journaliste, là, on a beaucoup de journalistes qui, au final, s'auto-censurent parce que dès qu'ils prennent la parole, dès qu'ils publient quelque chose, ils sont harcelés. Et ça, c'est aussi une vraie menace démocratique et une des principales menaces contre le journalisme aujourd'hui.
Je vois qu'ici, Divina.
Tout à fait, là. Je pensais même à des cas d'influenceurs. qui eux-mêmes, hein, lorsqu'ils épousent une cause hein, ou qu'ils font une campagne, par exemple pour le féminisme ou autre, hein, comme dans le cas d'un projet que je mène avec l'Europe qui s'appelle Gendered, qui se font shadowbanner. C'est-à-dire qu'on sait que déjà les plateformes ont certains mots-clés, dès qu'ils apparaissent, ben ils perdent comme bizarrement en ranking. Et c'est difficile à prouver parce que par ailleurs, dans d'autres postes, ils fonctionnent normalement. Et donc pour eux, la seule preuve qu'ils ont, c'est tout d'un coup une chute en popularité, alors que normalement, elle est assez stable, leur popularité. Donc ça touche vraiment tout le monde. Mais comme disait Elodie, c'est très compliqué à prouver. C'est dans une sorte de marasme généralisé, hein, d'inquiétude et d'incertitude que tout le monde a par rapport à sa profession, à son quotidien. Hein. Et ce jeu sur les vulnérabilités des citoyens fait que ça peut se retourner contre eux à un moment donné.
Alors dans le narratif populaire, quand on parle de journalisme, on pense souvent le journaliste qui doit protéger ses sources. Mais à vous écouter, maintenant, c'est le journaliste qui doit se protéger tout court.
Oui, ces sources sont synthétiques. C'est même plus la peine de les protéger.
Ouais.
Elles sont déjà protégées par les codes du numérique. Mais effectivement, c'est se protéger lui-même. Et puis ou elle-même, parce que c'est quand même beaucoup de femmes qui sont visées. Hein, ça rend silencieux tout cela, parce que c'est les familles qui sont attaquées à côté. Enfin, bon. Donc il y a vraiment une situation. Moi, je suis d'accord avec Elodie, d'alerte. On se sent en sécurité en Europe en disant qu'on est des pays démocratiques, mais les mêmes signaux qui ont été mis en place depuis des années dans les pays non démocratiques sont là, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont venus trop risqués à traiter en France, selon vous ?
Oui, il y a des sujets que les journalistes, bien sûr, sur lesquels les journalistes prennent une série de mesures avant de les traiter. Et là, on parlait notamment des oligarques. Bien sûr, il y a des procès bâillons pour faire taire les journalistes quand ils s'en prennent à ces oligarques. Mais ce que je constate au fil des dernières années, c'est qu'avant, on avait une liste de sujets qui était un peu, je dirais, aimant à troll. Et aujourd'hui, c'est un peu tous les sujets. Et c'est ça qui est à la fois un peu terrifiant et triste. C'est-à-dire que tout sujet est devenu potentiellement polarisant avec des communautés d'utilisateurs réels ou pas. D'ailleurs, c'est un peu un mix des deux qui parfois se coordonnent pour faire taire le journaliste, parce qu'il y a une difficulté aussi à débattre, à créer les conditions d'un débat, je dirais, plus apaisé, quoi.
Oui.
Ouais. Donc effectivement, ouais, il y a quelques sujets, peut-être évidemment tout ce qui est politique, quand il y a des sujets sur des partis. Environnemental, des questions
religieux,
genre, les conflits. Enfin, là, on est vraiment entré dans une ère de polarisation extrême des débats.
Théo, vous voulez parler sur l'intelligence artificielle ?
Oui, bah après, on a déjà un petit peu évoqué ça tout à l'heure, mais par rapport à l'intelligence artificielle, pensez-vous que ça peut être aussi un danger pour les journalistes et le métier de journalisme ?
C'est une question que les journalistes se posent depuis un moment. Ouais. Il y a des robots journalistes qui existent depuis peut-être une dizaine d'années, 2012-2013, et qui ont pour tâche notamment de faire du reporting sur des sujets extrêmement limités, la météo par exemple, les tremblements de terre, hein, pour le premier reportage qui a eu lieu historiquement sur le sujet. Hein. Les rédactions ont commencé à les intégrer, apprennent à s'en servir pour faire des résumés, pour traduire des histoires et des récits qui viennent d'ailleurs, etc., etc. Certaines pour lutter contre la désinformation, parce que maintenant il y a l'IA qui aide aussi hein, à les fact-checkers. Hein. Je pense à Vera AI hein, qui est le avec Invid, l'AFP en France, hein, un des lieux où ça se passe hein, en quelque sorte, hein, où ça se réfléchit beaucoup. Hein. Donc l'IA peut aider les journalistes. Hein. Tant qu'ils gardent, eux, le pouvoir décisionnaire, le pouvoir du choix des histoires, etc. Ce qui est plus inquiétant, moi, dans la pratique journalistique pilotée par l'IA ou par l'algorithme, parce qu'ils vont tout le dire ensemble, c'est que ce qu'on remarque, c'est une transformation des pratiques des journalistes qui vont, en fait, aller en ligne, voir ce qui est en trending, hein, voir les questions, les sujets qui sont très, très suivis, et ils vont faire leur agenda à partir de ça. Et cette inversion de l'agenda des priorités journalistiques, moi, je trouve ça très inquiétant, quoi. Parce que j'ai vu à quel point c'était faux. Par exemple, sur un des projets qu'on avait avec mon association Savoir Devenir, on travaillait, ça s'appelle Crossover, on travaillait sur le rôle des algorithmes dans l'actualité.
Et on avait, c'était sur la Belgique, c'était l'époque des convois de la liberté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Canada, les conducteurs de gros camions, etc., avaient carrément envahi la place principale et menacé le Parlement. Ils appelaient ça « Liberty Convoy ». Et il y a eu cette idée que ça allait se passer comme ça aussi en Belgique, à Bruxelles. Et donc, quand on était sur les médias sociaux, c'était la mobilisation était incroyable, la Belgique allait être bloquée, et avec ça, toute l'Europe. Enfin, c'était apocalyptique. Mais quand les journalistes allaient sur le terrain, il y avait moins de 100 personnes. Ça a été un pchit total. Mais ils avaient suivi l'agenda de ce qui allait en ligne. Donc, ils se sont déplacés. Bon, heureusement qu'ils se sont déplacés d'une certaine manière, mais c'était un faux sujet, en quelque sorte. Hein. Et donc, la difficulté de faire des choix de sujets, non seulement en censure, autocensure, hein, mais en qu'est-ce qui est vraiment important, quoi. Hein. Et on sait qu'en ligne, ce qui est important, c'est ce qui polarise, ou c'est ce qui fait rigoler, ou c'est ce qui fait fâcher. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le journalisme? Et est-ce que c'est ça qui doit déterminer les choix de priorité? Pas sûr.
Alors, ce que vous dites aussi, Divina, derrière cela, c'est aussi entre le digital et la proximité, le terrain. Et là aussi, on peut avoir aussi un débat. Alors, avant de se quitter, parce que le temps passe très vite, vous avez un train également à apprendre. On aime bien finir sur quelque chose de positif. Là, on a quand même assombri le tableau. Qu'est-ce qui vous anime encore dans le journalisme, à l'heure actuelle, en 2025?
Je pense qu'il n'y a pas de... Déjà, c'est une opportunité unique de continuer à se réinventer en permanence, parce que l'IA, c'est plein de possibilités aussi. C'est aussi la place pour, je dirais, un journalisme aussi un peu artisanal, hein, à la manière du fair trade, voilà. Donc, il y a de la place pour... on l'a vu avec quand le web est arrivé, les réseaux sociaux, c'est là où on a vu émerger aussi de la presse, on va dire, au temps long, des revues comme 21. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont émerger de toute cette révolution. Moi, ce qui m'anime, c'est aussi de voir des générations de journalistes qui eux-mêmes sont animés par la passion de ce métier qui est quand même absolument exceptionnel, où on est amené à raconter le monde et à parler au plus grand nombre. Donc, je pense que, et moi, c'est bien pour ça que je travaille sur la question de la protection des journalistes, c'est pour leur permettre, en fait, de continuer à exercer ce métier qui est essentiel en démocratie et absolument passionnant.
Merci Élodie Vial. Et pour finir, Divina Fromex, pour vous, la même question, vous répondrez comment?
Bien, écoutez, moi, c'est l'éducation aux médias et à l'information, bien sûr. Avec les journalistes, il y a eu un grand changement qui s'est passé en France et c'est une incroyable expérience puisqu'il y a un CPNEF, donc vraiment une entente avec les syndicats des journalistes, la presse écrite et audiovisuelle, pour faire une certification éducation aux médias des journalistes en binôme dans les classes. Et là, maintenant, c'est notre quatrième fournée. Et ils sont extraordinaires parce que ils montent des programmes sur 6 mois, plusieurs séquences. Là, il y a les assises de l'OMI à Lyon qui viennent d'avoir lieu. Enfin, c'est très productif, très créatif. Donc, c'est l'OMI tel que je l'aime, à la fois bon dans l'esprit critique, mais aussi dans l'esprit créatif. Parce que j'espère que évidemment, ça va faire que les cerveaux de nos jeunes Français restent bien à l'équilibre.
Eh bien, vous avez fait une petite passerelle pour le plateau suivant, puisqu'on parlera des veilleurs de l'info avec Olivier Magnin et Sébastien Touré, créateur du Carnaval Mental. Je pense que ça va vous plaire. En attendant, on va écouter Pat Cala qui a bossé pour rester un peu dans ce mood un peu incertain.
Merci à vous.
Jusqu'à ce qu'on soit cabossé. On veut pas venir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va bosser.
Ah ouais. On ne fait rien dans la vie si on est couché.
Ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien quand même.
Montez-moi. Ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien quand même. On ne fait rien dans la vie si on est couché.
Jusqu'à ce qu'on soit cabossé.
On va pas bosser. que je suis feignant, que je n'ai. Sais-tu combien d'années j'ai sous mon chapeau? S'il y avait des sous dans les bosses du dromadaire, je serais le beau gosse qu'a des bosses qu'a bossé.
L'information en démocratie.
Prenez le temps de vous interroger sur la construction de l'information.
Une émission avec la Ligue de l'enseignement.
Fake news, complot, surinformation, difficile de s'y retrouver dans ce brouillard numérique. Une boussole, l'éducation populaire, elle ne donne pas des réponses toutes faites, elle donne les moyens de penser par soi-même. Avec nous aujourd'hui, Olivier Emanien, qui co-anime le programme Les Veilleurs de l'Info, et Sébastien Trouvé, créateur du Carnaval Mental. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Alors, deux outils ludiques et puissants pour éveiller les consciences. On en parle en compagnie de vous, Carla. Bonjour.
Bonjour.
Ou rebonjour. Alors, Olivier, l'éducation populaire en 2025, elle résonne comment à l'heure des réseaux sociaux où les enfants désertent les aires de jeu car les parents sont trop méfiants, ou dès qu'un groupe d'ados se retrouve dans la rue, ça suscite parfois quelques craintes?
Alors la question, elle est vertigineuse. Hein. Donc, que suscitent les réseaux sociaux?
Non, c'était que l'éducation populaire, comment elle résonne à l'heure des réseaux sociaux?
Ah, comment elle résonne à l'heure des réseaux sociaux? Ben, on essaie de lui trouver plusieurs vibrations différentes. C'est-à-dire que à l'ère des nouveaux usages, on essaye d'accompagner d'une part sur de la création de contenus qui sont alignés sur ces usages-là, par exemple de la création de contenus sur Insta, sur des formats plurimédia et tout. Ça se fait sur plusieurs fédérations. Ça se fait soit avec des journalistes qui apportent une méthodologie, notamment angler un sujet. Voilà, trouver une entrée originale, accompagner techniquement aussi, par exemple, quand il y a de la prise de son, quand il y a de la vidéo. Donc, accompagner aussi donc des usages, mais en les doublant d'une méthodologie, d'une place au contradictoire, pour que les jeunes qui produisent ces contenus-là ressortent de cette expérience-là, d'une part avec des compétences audiovisuelles, mais aussi enrichis de... de la pluralité des voix et puis du script de ce qu'ils ont préparé et puis d'éducation populaire à l'heure des réseaux sociaux. Ça, Sébastien vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi l'esprit critique et donc toute la question liée aux arguments fallacieux, à la rhétorique, au biais cognitif, à l'IA aussi, je pense que vous l'évoquerez. Et puis sur le vrai faux, en tout cas il y a on a effectivement travaillé, et puis ça concerne tout le monde, hein, effectivement, être plus vigilant quant aux sources que l'on consulte, et puis différencier un influenceur d'un
média,
d'un média, quoi. Même si l'éducation populaire aux médias, c'est une éducation populaire critique aussi aux médias. Voilà.
Carla.
Donc vous avez vu réellement, vous, dans cette éducation populaire, une évolution avec l'arrivée des réseaux sociaux pour utiliser l'éducation populaire. Vous avez, enfin, en contact avec les enfants, est-ce que vous avez senti que, par exemple, dans la prise d'information, dans l'esprit critique, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé pour eux maintenant?
Est-ce que les choses ont changé tu parles par rapport à quoi? Depuis l'arrivée des réseaux sociaux?
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, d'une saturation de l'information avec les réseaux sociaux.
Ouais, après, moi, je pense qu'on peut quand même relativement faire confiance, je dis, aux enfants, jeunes, adultes, etc., pour être capable de décrypter, en fait, les fake news. C'est pas, enfin, effectivement, il y a quelque chose qui va complexifier dans la densification de l'information et après avec la désinformation, etc. Mais je pense aussi que c'est la pratique, l'usage de l'information, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui permet aussi, à force de s'informer à droite à gauche, de trouver les bons moyens de chercher. Et nous, on est de trouver les bons moyens de s'informer, en tout cas, de trouver les bonnes choses. Et nous, on est là aussi un petit peu pour, en parallèle de ça, apporter des outils de décryptage, d'analyse, qui va permettre un petit peu d'accompagner la manière de s'informer pour permettre un petit peu de Alors effectivement, pas juste aux jeunes, aux jeunes, aux ados, aux adultes. Je sais qu'il y a un des parcours qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Verlan Info, qui est beaucoup utilisé dans les espaces de privation de liberté aussi. Mais vraiment de donner les moyens de décryptage et d'analyse, pouvoir permettre un petit peu d'expliquer comment ça fonctionne pour permettre ensuite aux consommateurs d'informations de faire des choix, de faire leur choix et du coup d'acquérir une certaine autonomie dans la manière de s'informer, mais qui soit une autonomie suffisamment éclairée et critique. C'est plus ça que c'est comme ça que je le vois en tout cas. Le rôle de l'EduPop, moi je le vois comme ça.
Après, pour te répondre Carla et pour compléter la réponse de Sébastien, puisque ta question c'était est-ce que les réseaux sociaux ont changé quelque chose, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ce que dit Sébastien sur la capacité, effectivement. J'y souscris complètement. Après, c'est vrai que ça a changé quelque chose, évidemment. C'est-à-dire que tu as une information qui s'est massifiée en nombre, en quantité. Tu entends tout et son contraire sur tout. Et donc, ça produit effectivement de la confusion. Ça produit même une fatigue démocratique ou une incapacité à réagir ou une surréaction ou une polarisation où on en vient même à se demander si les personnes... là, c'est assez subjectif hein, ce que je vais vous dire, mais à mon avis... Est-ce que les personnes ont toujours envie d'avoir accès au réel quand ils s'informent ou est-ce qu'ils sont plus dans quelque chose de feuilletonné, par exemple, dans lequel ils auraient leurs affects, leurs choix? Donc ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les réseaux sociaux ont clairement quand même changé un certain nombre de choses, quoi.
Ouais, peut-être aussi pour rajouter sur la même question, on va finir sur une question. C'est non, mais je pense que une chose que ça a ajouté, c'est que jusqu'à présent, l'information avant les réseaux sociaux, on va dire, l'information, elle était dédiée à des médias, quoi. Et en fait, il fallait être un journal, une télé, etc., une radio pour pouvoir divulguer de l'information. Aujourd'hui, tout le monde est acteur de l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est vraiment un plus. Hein. Tout le monde peut être acteur de l'information, la donner, à distribuer. Maintenant, ce qui est important, c'est d'arriver avec une grille d'analyse sur ça, c'est-à-dire que, en fonction des gens qui donnent l'information, il faut quand même être capable de prendre le recul, de faire preuve d'esprit critique sur l'information qu'on reçoit, parce que peut-être le circuit de l'information n'est pas le même. Et ça, on fait ça dans les veilleurs de l'info, hein, comprendre comment une ligne éditoriale, quand on réfléchit à la création d'un journal, tout le parcours que va faire l'information, comment il est vérifié, etc., sur des médias assez connus, comment il est vérifié, et puis comment l'information qui peut circuler par des acteurs qui sont autonomes et qui vont diffuser sur les réseaux sociaux une information, elle peut être tout à fait juste et très bien, mais comme elle peut être tout à fait fausse aussi et ne pas avoir suivi de parcours de vérification, quoi. Et nous, on invite quand même on va donner les outils de décryptage pour suivre ces éléments de vérification et pour que ce soit fait à chaque fois, quoi.
Alors, on a esquissé le programme Les Veilleurs de l'Info, mais on n'a pas parlé du carnaval mental. C'est quand même un nom intriguant. C'est un bon concept. Sébastien?
Ouais. Carnaval mental. Carnaval mental, c'est dans la continuité des Veilleurs de l'Info. Hein. Là, on a vraiment parlé le début des Veilleurs de l'Info, comprendre l'information, après comprendre comment on l'a, quel parcours de l'information, les lignes éditoriales, puis après on va un petit peu sur les théories complotistes et on commence à aller sur l'esprit critique avec les biais, les arguments fallacieux. Et Carnaval Mental, il vient s'inscrire dans la continuité des Veilleurs de l'Info où on va vraiment être spécifiquement sur la compréhension de l'esprit critique. Donc c'est un parcours en trois étapes, trois séances. La première, elle va être là un petit peu pour permettre de vulgariser un petit peu le fonctionnement du cerveau. Alors, de manière, on n'est pas neuropsy, hein, de manière vraiment vulgarisée, mais qui permette d'être sur un pan spécifique. C'est celui où parfois le cerveau utilise ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis mentaux. Et parfois, c'est ces heuristiques qu'il va utiliser hein, dans l'immédiateté, sous le coup de l'émotion. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Et parfois ces heuristiques qui se mettent en erreur, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, et du coup on part de raisonnement rapide et on arrive à faire des erreurs qu'on voit pas forcément dans la manière dont on réagit, on juge ou on évalue une information. Et la première séance elle va être un petit peu sur ça, sur la compréhension des deux systèmes de pensée, donc celui qui va être très rapide et qui marche très bien. Les deux, ils marchent en cohabitation en permanence. Un système de pensée, c'est Daniel Kahneman qui a théorisé ça, un système de pensée qui est très rapide et un système de pensée qui va être beaucoup plus lent et réfléchi. Et en fait, l'idée, c'est que dans la première séance, on questionne un petit peu ça. Et puis après, dans la deuxième séance, on va aller voir comment, parfois, en tout cas, les big tech du numérique qu'on trouve sur les réseaux sociaux vont utiliser ces moments où on va utiliser des raccourcis pour nous permettre d'orienter des opinions ou des comportements sur les réseaux sociaux. Alors, quand je parle de comportement, je peux parler de comportement d'achat. Alors là, je parle de trucs très théoriques et je suis pas sûr que ça vous parle. Je vais essayer de dire des trucs un peu plus pratiques. Par exemple, dans la deuxième séance, en fait, le but de la deuxième séance, c'est de se battre contre des personnages allégoriques qui vont représenter les mécanismes qu'on retrouve à l'œuvre dans l'économie de l'attention. Et par exemple, on va aller se battre contre un personnage qui s'appelle Bubble. Bubble, c'est un personnage qui représente les bulles de filtre, l'enfermement algorithmique. C'est-à-dire, par exemple, quand on est sur YouTube et qu'on propose toujours les mêmes contenus. On va aller se battre contre un personnage qui s'appelle Dark Minos. Lui, il va utiliser les cases précochées ou le fait que pour se désinscrire d'un truc, c'est toujours laborieux, alors que pour s'inscrire, ça se fait en deux clics. J'imagine que là, ça parle beaucoup plus quand je donne des exemples comme ça, quoi.
Avant de se quitter, parce que le temps passe très vite, on va retrouver dans quelques minutes Patrick Chauvel, grand reporter, pour évoquer le journalisme en temps de conflit. Les assos qui nous écoutent, si on a envie de développer le carnaval ou les veilleurs de l'info, est-ce que on va sur le site de la Ligue de l'enseignement? Comment ça se passe?
C'est sur le site numeduc.org, numeduc.org.
Et ben on mettra le lien sur le podcast.
Il y a les liens et vers les veilleurs, et vers Webrunner, et vers Carnaval Mental, et vers un outil parcours pédagogique sur lequel on travaille actuellement. Sur les intelligences artificielles.
Et bien c'est sous licence Creative Commons. Donc
oui.
C'est accessible. Ça, faut le souligner, ouais.
Les veilleurs de l'info, le carnaval mental, on apprend à penser par soi-même ensemble. Merci à Olivier Magnin et Sébastien Trouvé d'avoir partagé votre expérience et à vous écouter. On a envie d'être encore plus curieux, j'ai l'impression, plus critique et aussi être acteur et actrice de l'info. On va retrouver donc dans quelques instants notre prochain invité, Patrick Chauvel. On va faire une petite pause musicale avec Vanille et le titre s'intitule Balance.
Merci bien.
L'information en démocratie. Prenez le temps de vous interroger sur la construction de l'information. Une émission avec la Ligue de l'enseignement.
50 ans au cœur des conflits du Liban à la Syrie, de Mossoul à Gaza, de l'Irlande du Nord à l'Afghanistan. Aujourd'hui sur votre radio, on reçoit Patrick Chauvel, grand reporter, photographe, documentariste, écrivain, comédien et témoin de l'histoire Les Deux Pieds dans le Réel. Un homme qui a mis des visages sur les guerres, qui a capté l'instant sans jamais détourner les yeux. Avec lui, on parle de journalisme, de vérité et de courage. De ce que ça veut dire informer quand tout vacille. Bonjour, merci d'être avec nous. À mes côtés, Camille. Bonjour Camille.
Bonjour. Dans un monde où l'info circule à la seconde, comment on lutte contre l'infobésité et cette course au buzz quand on est photojournaliste?
Il faut absolument lutter contre ça parce que moi je suis contre la rapidité. On n'est pas pressé, on n'est pas obligé. Et la vitesse ne permet pas le recul. Une photo qui est hors contexte et qui n'a pas une bonne légende avec une réflexion sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire et qu'est-ce qu'elle raconte, c'est dangereux. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont dangereux parce que c'est des images immédiates, irréfléchies. Les gens ne comprennent pas forcément ce à quoi ils assistent. Quelquefois, nous, professionnels, il nous faut un petit temps pour comprendre ce qu'on vient de voir. Et il faut aussi essayer de voir si on n'a pas été manipulé. On sait pourquoi on nous empêche de travailler, parce que ça veut dire qu'on est utile. Pas mal de gouvernements ne veulent pas montrer à leur peuple ou au monde entier ce qu'ils sont en train de faire. Mais quelquefois, il faut aussi s'interroger sur pourquoi on nous laisse aller à tel endroit. Donc, photographier à tout prix, filmer à tout prix, mais faire attention avant d'envoyer, quoi. Donc, la vitesse, c'est bien, mais pas trop vite. Je regrette le temps où on envoyait nos films et les photos arrivaient 3 jours après à New York et on avait un retour 4-5 jours après. Donc, ça permettait de réfléchir, de pouvoir appeler le journal en disant « Le type que j'ai photographié hier, en fait, il n'est pas ce que j'ai cru, donc ne publiez pas cette photo, je me suis trompé. Aujourd'hui, vous envoyez immédiatement et ça peut être sur les réseaux sociaux en 3 minutes et dans le monde entier. » Donc, il faut faire très attention à ça. C'est un peu comme rouler trop vite en moto, quoi. Vous allez trop vite, vous allez vous péter la gueule.
Il faudra faire attention aux glisseurs de sécurité.
Quand on est photojournaliste de guerre, comme vous, depuis des années, voilà, est-ce qu'on s'habitue vraiment un jour aux atrocités auxquelles on peut être parfois confronté? Comment est-ce qu'on a le recul nécessaire pour pas être impacté mentalement? Et comment on reste passionné face à la violence ou la souffrance de la guerre?
Moi, je suis passionné par l'information, quelle que soit l'information. Je veux transmettre, j'aime raconter les histoires. Mon rôle, c'est de vous faire parler directement avec un Israélien, un Palestinien, un Iranien, un Ukrainien. Pour moi, le métier de journaliste, c'est l'art de l'effacement, ce qui n'est pas souvent le cas avec la télé où les journalistes se mettent en avant. Je trouve ça dommage. Moi, la passion du métier, le fait que je pense que ce soit utile, que ça peut changer les choses, fait que les souffrances qu'on peut encaisser, les images atroces auxquelles on peut assister, à partir du moment où vous pensez que ce que vous faites sert à quelque chose, ça passe, on encaisse. L'importance du métier va au-delà de ce que je ressens. C'est très, très important d'avoir un témoin qui est là. Donc, les gens souffrent, je transmets cette souffrance à vous. Je suis comme une sentinelle avancée, je vous préviens du danger. On nous écoute pas toujours, mais on a essayé de vous prévenir depuis longtemps ce qui allait se passer au Moyen-Orient, en Iran et partout. On a assisté à plein de petites lumières rouges qui s'allumaient partout. Apparemment, on nous a pas vraiment écoutés. Mais au moins, on a la preuve que c'était déjà annoncé.
Vous avez documenté de nombreuses zones en guerre, et ce depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment possible d'être impartial? Comment vous réussissez votre devoir d'honnêteté intellectuelle sans en prendre parti?
Moi, je choisis en général le camp le plus facile à couvrir. Là, par exemple, j'aimerais bien aller à Gaza. Les Israéliens interdisent l'entrée à la presse. Donc, je suis forcé d'être côté israélien. Je suis pas forcément d'accord avec ce que fait le gouvernement israélien, il ne faut pas confondre le gouvernement et les Israéliens. Je vais forcément avoir de l'empathie pour les Palestiniens quand je vais être avec eux, parce que je vais assister à des atrocités, mais je vais garder ça pour moi. Mes images, elles sont ce à quoi j'assiste, et rien d'autre. Elles ne sont pas trafiquées, donc c'est très difficile. On va dire qu'on n'est pas impartial en tant qu'homme, mais on l'est en travaillant. Alors forcément, à un moment donné, si on est bombardé tout le temps par quelqu'un, on va moins l'aimer. Ça va être plus compliqué, et donc, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, vous avez plusieurs journaux de plusieurs tendances politiques. Vous avez un rédacteur en chef, un chef du service photo, qui va recevoir les photos des deux camps. Il y a des photographes avec les Russes, il y a des photographes palestiniens, il y a des photographes israéliens. C'est lui qui va faire le tri et qui va être impartial. Et après, c'est au public de choisir de lire la gauche ou la droite et de se faire son opinion. S'il veut vraiment connaître la vérité, ben il a intérêt à acheter les deux, hein. Et se faire sa vérité. Personne n'est impartial, ça n'existe pas.
D'autant que si vous nouez sur le terrain des affinités avec des fixeurs ou autres, après, on reste des hommes, quelque part.
Bien sûr.
Et après, il y a quand même des liens qui se lient, et donc au final, c'est difficile après, vous avez dit, d'essayer d'être impartial, mais...
Oui, c'est pas facile, mais par exemple, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, le siège de Sarajevo, à un moment donné, j'avais décidé d'aller côté serbe, qui étaient les agresseurs, pour voir ce qui les motivait. Et en les écoutant, ils avaient leur logique. Je n'étais pas d'accord avec leur méthode, mais je comprenais leur logique. Donc, du coup, je décidais de raconter l'histoire de leur point de vue. Alors, il y a des guerres où c'est possible d'aller dans les deux camps. En ex-Yougoslavie, on pouvait être avec les Bosniaques et ensuite passer dans les montagnes avec les Serbes. Au Salvador, on pouvait être avec l'armée et ensuite avec les rebelles dans la montagne. Là, ça va être difficile parce que les Israéliens nous interdisent Gaza. Quand il y avait la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak, il était hors de question d'aller côté Daesh parce que là, ils m'auraient coupé la tête. Donc, il y a des endroits où, quand c'est possible, on le fait.
Et sur le conflit ukrainien avec la Russie, est-ce que vous avez été sur ce conflit récemment ou pas?
Oui, j'y vais souvent. Je suis allé plus de 6 fois, ouais. Je vais souvent là-bas, mais je peux pas aller côté russe parce que le problème, c'est que si j'avais su quand j'ai démarré ce métier, j'aurais pris un pseudo. Sauf que maintenant, si je vais côté russe, ils vont taper mon nom et ils vont voir tous les trucs que j'ai dit contre eux dans les émissions de télévision. Et je vais me retrouver en tôle comme espion, condamné à 20 ans de prison, et ensuite on m'échangera contre un espion dans 6 mois ou 8 mois, quoi. Donc c'est pas la peine d'essayer. Mais il y a des photographes côté russe, donc c'est pas très grave.
Alors dans le début de cette discussion, vous avez dit que vous travaillez aussi pour l'histoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer?
Le TPI par exemple, il y a des photos que je vais faire qui sont...
C'est le sigle Tribunal International.
Tribunal International, d'accord. Ouais. Tribunal Pénal International. Et en fait, beaucoup de journalistes sont quelquefois convoqués au tribunal parce qu'ils servent de témoins de crimes de guerre. Donc, par exemple, en Ukraine, mon fixeur a été tué. J'ai fait une enquête. Et en faisant l'enquête avec Reporters sans frontières, on a compris qu'il avait été sommairement exécuté. Il avait son gilet pare-balles avec marqué presse. Il avait ses appareils photo. Ils ont tout enlevé. Ils lui ont tiré une balle dans la poitrine. Et ensuite, 2 balles de pistolet dans la tête quand il était au sol. Exécution sommaire par un officier, parce que le soldat russe n'a pas de pistolet. Donc, les balles de pistolet, ça veut dire que c'est un officier. Donc, on a fait une enquête, j'ai trouvé pas mal de choses, on a tout remis au procureur de la République ukrainien. Toutes les photos du cadavre et de l'enquête, etc., je les ai pas données à la presse, parce que ça sert à rien. Par contre, j'ai fait un travail d'enquête. Une femme violée, il y a une photo d'une femme violée, torturée, exécutée. En partant de la photo qui était à peu près montrable, j'ai été voir par image et je leur ai dit... Cette femme, c'est le numéro, le viol 675. Ce serait bien de lui trouver un nom et savoir qui elle était. Donc là, j'ai fait une enquête. Ça a pris du temps avec Florent Marcy, le réalisateur qui avait fait la photo. Et on a fini par savoir qu'elle s'appelait Oksana, qu'elle avait 35 ans, qu'elle avait une fille, qu'elle était venue en France, était tombée amoureuse d'un Français à 15 ans dans un voyage scolaire. Voilà, on a redonné un visage à cette femme et du coup, c'est devenu le symbole de toutes ces femmes qui subissent le viol comme arme de guerre. Et là aussi, bon, ça a été un reportage dans Match, mais ça va plus loin que ça. Ça revient les images atroces quand on lui a enlevé son manteau de fourrure. Ne peuvent pas être dans la presse. Par contre, elles peuvent être au procès. Donc voilà. Donc, mon travail de journaliste, je peux pas me cacher derrière ma carte de presse en me disant, je suis journaliste, ça me regarde pas. Non. À un moment donné, en étant le seul témoin sur place, c'est à moi de prendre en charge, le drame auquel j'assiste et de le faire connaître par le tribunal. Après, il y a des photos qui sont difficiles à montrer aujourd'hui parce qu'elles racontent pas forcément la bonne chose ou elles vont nuire à une opération qui est toujours en cours. On pourra les sortir dans 2 ou 3 ans. Donc, ça sera dans les livres d'histoire, dans les livres de collège. Ça racontera l'histoire d'une autre perspective avec le recul. Donc, la presse immédiate, je m'en méfie un peu en plus. Je vais faire un choix précis de photos qui symbolisent, qui attirent le regard pour que les gens lisent l'histoire. Mais ça s'arrête là, je vais pas les choquer.
Patrick Chauvel, vous avez créé une association de préfiguration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette association? Qu'est-ce qui vous a poussé à sa création?
Alors, ça vient pas de moi. Ce sont des Suisses qui un jour m'ont appelé en disant il faut faire une fondation Chauvel. Alors au début, j'ai cru que c'était une blague. C'était un copain qui se foutait de moi. J'ai répondu mais il est pas mort Chauvel, donc pourquoi faire une fondation? Et ils m'ont dit ça va être plus simple pour les légendes. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et ils m'ont dit, bon, c'était il y a 10 ans, dans 5 ans, à l'époque, ça fera un demi-siècle de guerre à flux continu. C'est un patrimoine, où sont vos photos? Une expo permanente sur un demi-siècle de guerre qui est en permanence au mémorial. Donc voilà. Donc c'était pas mon idée, mais à partir du moment où j'ai eu les moyens qui m'ont été offerts de faire ça, je leur avais répondu, vous allez jamais récupérer l'argent que vous avez mis parce que mes photos ne vont pas se vendre à ce niveau-là. Ils m'ont dit, mais on est mécènes. Le seul truc qu'on regrette, c'est que ce soit pas la France qui le fasse parce que c'est un patrimoine français. Et ils m'ont dit, mais voilà, on voulait pas que ça reste dans l'ombre. On a calculé que vous étiez le plus ancien photographe en longévité, toujours en activité. C'est pas forcément un compliment, mais c'est un peu la carte vermeille.
Si un jeune vous disait demain, je veux être reporter de guerre, qu'est-ce que vous lui répondrez?
Ne le fais pas. Parce qu'en fait, ou alors il rentre dans un organisme comme la télévision ou un journal, ce qui va être difficile. Pour les photographes indépendants et les caméras indépendantes, c'est une catastrophe financière, ça marche pas, quoi.
On dit que souvent que le photojournalisme, c'est une profession en souffrance, c'est vrai?
Le photojournalisme de guerre, c'est un métier sinistré. Il y a beaucoup de photographes qui veulent, il y a pratiquement plus de journaux. je sais pas, quand je fais des photos pour match, en général, les gens vont me féliciter 3 ou 4 mois après parce qu'ils ont été chez le médecin. Plus personne achète les journaux. Donc, il y a plus d'argent. L'argent, c'est pour le showbiz. La guerre, ça se vend pas. Donc, on se retrouve à financer nos reportages tout seul. Je suis parti en Syrie 6 semaines. J'ai dépensé 3000 euros. J'ai fait 5 pages dans match. Donc, ça fait 5000 euros moins les charges sociales. Donc, j'ai gagné 800 euros en 6 semaines. C'est... Après, j'ai fait un sujet sur Florent Pagny, une journée avec lui, 12 000 euros. Voilà, c'est la différence entre le showbiz et la guerre, parce que les prix sont les mêmes pour la page, sauf que pour faire les 5 pages en Syrie, il faut 6 semaines, il faut payer un fixeur, un billet d'avion, une voiture 4x4, enfin voilà.
Il y a les frais.
Il y a les frais, donc je pense que malheureusement, le photographe seul, indépendant, il n'arrivera plus à trouver le fric. Ce sera un métier de riche, en fait. Donc, ce sera les caméramans qui ont les financements de la télévision et qui sont payés par France 2 ou TF1, qui partent avec un journaliste ou qui sont seuls. La qualité de la caméra fera qu'il suffira de faire un arrêt sur image et d'envoyer la photo à par image. Mais le photographe seul avec son petit appareil photo, c'est mort. C'est fini, malheureusement. Pourtant, c'est un beau métier.
Et pourtant, vous partez encore, vous avez dit. Là, c'est quoi les prochaines destinations?
Alors, j'essaye d'aller en Iran. C'est compliqué pour l'instant. Je voudrais aller évidemment à Gaza comme tous les journalistes dignes de ce nom. C'est compliqué aussi. Puis je vais aller en Ukraine. C'est les trois avancements. J'ai la sécurité de l'emploi, moi.
Voilà, malheureusement, sur tous les continents.
Ouais. Ouais. Et puis, je parle même pas de ces guerres dont on parle plus, c'est-à-dire le Soudan, le Yémen.
La République démocratique du Congo.
Les Républiques démocratiques du Congo. Tout ça, c'est des guerres oubliées parce qu'une guerre chasse l'autre. Et que malheureusement, dans la presse, c'est devenu un business. Voir une arme politique, on voit qui achète quel journal et qui impose tel sujet. Donc, c'est pour ça que je suis indépendant. Je veux pas appartenir à des médias qui appartiennent à des gens qui ne me plaisent pas. J'essaie de vendre ponctuellement des sujets avec le texte et les photos. S'ils le prennent pas en entier, ils le prennent pas. Donc, je vais pas me faire manipuler. Déjà que j'ai du mal à pas être manipulé sur le terrain, mais alors, à l'arrivée, ce serait un peu con.
Alors, pour terminer, on a avec nous trois... C'est l'avenir un petit peu du journalisme. Vous leur dites quoi à Chloé, à Camille et à Cléo?
S'ils veulent être sur ces terrains-là, vous n'allez pas aller voir le Figaro, le Monde et leur dire « je vais aller en Iran » parce qu'ils vont vous dire non. Par contre, si vous allez en Iran et que vous les appelez, ils vont vous dire oui. Donc, c'est à vous de le faire, quoi. J'ai pour exemple un jeune journaliste qui sortait de l'école, et le journaliste du Monde n'a pas pu aller en Biélorussie parce que il est trop connu et que les Biélorusses empêchaient les journalistes de travailler. On lui a conseillé de prendre un pseudo, donc sur son passeport, ce sera son vrai nom. Il est parti comme étudiant en Biélorussie et pendant 2 ans, il a fait des papiers pour Le Monde signés du pseudo et ils l'ont jamais trouvé. Et après, il est parti en Ukraine et il travaille pour Le Monde maintenant sous un pseudo. Et voilà, sa carrière est lancée. Il est parti sans qu'on lui demande de partir. Et moi, si j'avais su qu'un jour Internet existerait quand j'ai commencé, j'aurais évidemment pris un pseudo. À l'époque, on avait notre métier sur le passeport. La plupart des journalistes étaient publicistes. Moi, j'avais mis trapéziste. Comme ça, j'étais tranquille. Alors évidemment, j'avais toujours un peu peur qu'il y ait un cirque qui est perdu, qui soit en manque de personnel. Je prenais le risque. Et voilà. Mais Rémi Jourdan, le grand reporter du Monde, était parti en Biélorussie, sous le prétexte de se marier avec une Biélorusse. Il avait fait des échanges, donc arrivé à la frontière, il a montré ça aux officiers de l'immigration. Qu'est-ce que vous me faites faire là? Il a dit, mais je vais me marier. Et le type du KGB local a tapé son nom sur Internet et il a éclaté de rire, pour la seule fois dans sa vie. Et Rémi Jourdan a pris l'avion dans l'autre sens. C'est jamais marié, parce qu'évidemment, Internet, vous tapez mon nom, vous savez ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une... Donc déjà, prenez un pseudo.
Je vais commencer à y réfléchir.
Voilà. Et puis, vous êtes important pour les journaux quand vous êtes sur place. Ils vont pas prendre la responsabilité de vous envoyer. Déjà, s'ils prennent votre billet d'avion et qu'il vous arrive quelque chose, ils sont responsables. Donc, par contre, si vous êtes là-bas et que vous leur envoyez un papier, ils sont pas responsables de vous. Donc, c'est pragmatique. Malheureusement, c'est comme ça. Et après, si vous avez du talent, à un moment donné, Rémi Jourdan, le grand reporter du Monde, il a commencé comme ça. Il était en stage dans une radio, comme vous. La guerre en ex-Yougoslavie éclate. Il prend sa bagnole. Il y va en bagnole. Il a le numéro de téléphone du journaliste. il l'appelle en disant, écoute, je suis arrivé, il y a un hôtel en feu, il y avait des gens qui sont sortis, fais un papier de 5 minutes. Et après, 3 papiers par jour, 5 papiers par jour. Et après, c'était Radio Canada, Radio Belge, Radio Suisse, et la Radio Française. Il prenait $100 à chaque petit papier. Il en faisait 8 par jour. C'est devenu une star. Et il a beaucoup de talent. Mais ça, c'est obligatoire.
Alors Patrick,
et il a été engagé au Monde comme grand reporter à 24 ans.
Donc on l'a compris, c'est la débrouillardise. Ben dans le métier, ça peut encore essayer d'aller trouver des nouveaux sujets et de démarquer des autres.
L'envie, la passion,
et la passion,
la ténacité, et puis surtout la générosité vis-à-vis des gens, parce que n'oubliez pas que vous travaillez pour le public.
C'est ça. Et ben c'est sur ces mots qu'on va se quitter, puisque la ligue vous attend déjà. Merci, un grand merci d'être passé à notre micro. Eh bien, merci pour tout ce collectage pour l'histoire que vous faites. Un grand merci. Hein. Merci d'être venu.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors, avant de se quitter, on peut peut-être faire une petite conclusion constructive, collective, si vous le voulez bien. Je vous écoute. On vous écoute.
Bah, écoutez, moi, je dirais que pour conclure, moi, ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai appris aujourd'hui et même de ce que je savais déjà avec les études que je fais, je dirais que le monde du journalisme, c'est quand même un monde très, très vaste et c'est une profession en constante évolution et qui fait notamment face, malheureusement, à de nombreux enjeux comme l'infovisité, l'intelligence artificielle, la censure et l'autocensure, on en a parlé, le pouvoir que détiennent certains oligarques. Et puis les risques sur le terrain aussi, surtout ceux en guerre. Et moi, ce que je dirais personnellement, c'est que justement mes études et ce que j'apprends autour de moi, ça me conforte dans mon choix de métier. Et je pense que les journalistes resteront malgré tout ça, malgré tout, les défenseurs de la liberté d'expression et de la démocratie. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur. Voilà.
Moi, ce Carla. Que j'ai retenu, ce que j'ai retenu, c'est la nécessité d'informer en fait sur les dangers que court le journalisme. Je trouve que c'est assez important. On l'a vu à travers l'éducation des enfants aux médias et puis l'indifférence aussi dont on a pu parler de l'opinion publique de certains journalistes en fait qui sont en danger. Donc voilà, je trouve que c'est des enjeux très importants d'éduquer à ces questions-là. Et voilà, c'est ça que j'ai retenu surtout.
Et pour finir, Cléo.
Je rejoins Carla et Camille un petit peu sur tout. C'est vrai qu'on se sent assez concernés vu que c'est nos études, que c'est aussi notre génération, on est beaucoup touchés par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, je pense qu'on est tous sujets à avoir de la désinformation, des fake news tous les jours. Et je pense que du coup, ça souligne encore plus l'importance de ce métier et de faire notre métier correctement et pour pouvoir informer correctement plus tard.
Bien, merci à vous trois d'avoir préparé cette émission. C'était un réel plaisir de co-animer avec vous. On va rendre l'antenne. Gardez l'écoute.